Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient, nous sommes vendredi, vous connaissez le principe du vendredi, vous nous appelez pour commenter l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine, vous nous appelez, vous intervenez en direct sur RFI, tous les sujets nous intéressent, hein, même ceux qui ne font pas la une de la presse internationale, donc surtout n'hésitez pas, 33 9 693 693 70, vous envoyez également vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RFI, appel sur l'actualité, la Libre Antenne, ce sera dans 30 minutes, mais d'abord, comme tous les matins, à cette heure-ci, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, eh bien, nos experts au sein de la rédaction à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants vous répondent en direct, toujours au même numéro, 33 9 693 693 70. Et pour commencer, eh bien, nous allons revenir sur l'affaire Vincent Lambert, ce Français de 42 ans, tétraplégique et en état végétatif suite à un accident de voiture il y a 11 ans. La semaine dernière, vous l'avez suivi sur RFI, la plus haute juridiction française a donné son feu vert à l'arrêt des soins. Un arrêt qui intervient après 6 ans d'un combat judiciaire qui divise la famille Lambert avec d'un côté les partisans du maintien des soins, comme ses parents, et de l'autre, les membres de sa famille favorables à l'arrêt des traitements, comme son épouse et certains de ses frères et sœurs. Peter, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes en région parisienne et vous avez justement plusieurs questions sur cette affaire Vincent Lambert.
Effectivement Juan, j'ai appris que le médecin de Vincent, après la décision de la Cour de cassation, a engagé un nouvel arrêt de traitement. Alors voici mes questions. Comment se déroule le processus? Cela peut être considéré comme de l'euthanasie.
Ah, comment se déroule ce processus enclenché effectivement par un médecin du CHU de Reims? Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Juan,
vous
Peter.
Suivez cette affaire pour RFI. Très concrètement, l'arrêt des soins a déjà commencé.
Oui absolument, depuis mardi dernier, hein, trois jours après l'arrêt de la Cour de cassation. Et dès mardi, l'hydratation et l'alimentation de Vincent Lambert ont été arrêtées. Alors concrètement, Vincent Lambert n'était pas alimenté avec une cuillère par la bouche puisqu'il ne peut pas mâcher ou déglutir. Ça se faisait donc par perfusion, c'est donc les perfusions qu'on a arrêtées. Et puis en parallèle de cette suspension d'alimentation et d'hydratation, Vincent Lambert a été mis sous ce qu'on appelle sédation profonde pour éviter qu'il souffre en fait. Et cette sédation, eh bien, ça veut dire qu'on lui injecte une molécule très efficace et connue pour ses propriétés anxiolytiques et amnésiantes. Et elle est utilisée, cette molécule, par exemple, pour les anesthésies lorsqu'on va à l'hôpital.
Mais est-ce que ça veut dire que Vincent Lambert va mourir de soif ou de faim?
Alors non, parce que déjà, on l'a dit, il est en état végétatif, il n'a donc pas conscience de ce qu'il se passe autour de lui et de ce qui se passe dans son corps, donc il ne ressent pas ni la soif, ni la faim. Et puis, en réalité, lorsque l'on arrête ce genre de traitement, ce n'est pas la faim ou la soif qui provoque la mort, mais c'est l'insuffisance rénale provoquée par la déshydratation qui devrait en fait tuer Vincent Lambert, car en fait... du potassium va s'accumuler dans son sang et c'est ce qui va provoquer l'arrêt du cœur bien avant la déshydratation ou le manque de nourriture. Et puis dans ce genre de cas, il faut savoir que la mort survient généralement entre quelques jours et quelques semaines après l'arrêt de l'hydratation. Ça dépend notamment de la résistance du patient.
Peter nous demandait si l'arrêt des soins pouvait être considéré comme de l'euthanasie.
Non, car les médecins ne vont pas administrer une piqûre létale à Vincent Lambert, ce qui serait considéré comme du suicide assisté ou de l'euthanasie. Là, en fait, c'est différent. Ils vont arrêter des soins qui le maintiennent en vie et ça va entraîner sa mort de façon naturelle. Et c'est là, en fait, toute la différence parce que cette procédure est encadrée par une loi qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti qui, elle, interdit justement l'euthanasie mais autorise l'arrêt des traitements en cas de ce qu'on appelle un acharnement thérapeutique. Et justement, on est dans le cas d'un acharnement thérapeutique puisque toutes les instances judiciaires et les experts médicaux sont formels. Vincent Lambert n'a aucune chance de sortir de son état végétatif. Ce n'est donc pas un arrêt des soins à proprement parler, mais un arrêt de son maintien en vie artificiel.
Vous aviez d'autres questions, Peter?
Oui, évidemment, Juan. Peut-on envisager un nouveau rebondissement dans cette affaire lorsqu'on sait que les parents de Vincent lancent un appel aux Nations Unies?
Ah, quelle suite, Pierre-Olivier?
Alors, les choses là semblent quand même assez compliquées pour les parents. Hein. Ils ont saisi tous les juges qu'ils pouvaient saisir, aussi bien sur la scène internationale, en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en France, avec le Conseil d'État, une des plus hautes juridictions. Et toutes ces instances juridiques, eh bien, se sont prononcées pour l'arrêt des soins. Autrement dit, les parents n'ont plus de recours juridique possible. En revanche, il semblerait que ce soit maintenant sur l'aspect plus politique de ce combat que les parents, dont la mère de Vincent Lambert, compte pour tenter de maintenir Vincent Lambert en vie. Et sa mère est effectivement allée lundi dernier plaider la cause de son fils devant l'ONU à Genève pour essayer d'en faire un symbole sur la fin de vie. Mais l'ONU en France et pour tous les États membres n'a qu'un pouvoir consultatif. Et donc, a priori, ça ne devrait pas empêcher les médecins de poursuivre ce processus.
Donc, plus aucun recours judiciaire.
Plus aucun recours judiciaire possible.
Merci Pierre-Olivier d'être venu répondre à Peter qui nous appelle de la région parisienne de Jouy-le-Moutier, pour être très précis, c'est pas très loin de Cergy, pour ceux qui connaissent la région parisienne. 10h17 ici en France. Vos questions, 33 9 693 693 70. Bonjour Silver.
Bonjour Juan, très très ravi d'être en direct avec vous ce matin.
Merci de nous écouter à Lomé, au Togo. Vous avez des questions sur les milices d'autodéfense dans le nord-est du Nigeria.
Oui, effectivement Juan. Au Nigeria, près de 2000 personnes ont manifesté à Maïdougouri, dans le nord-est, pour dénoncer les dérives de certaines milices d'autodéfense. Qui sont les membres de ces milices et comment fonctionnent-elles? Comment expliquer le poids pris par ces milices dans cette zone du Nigeria?
Oui, des milices accusées d'exécution extrajudiciaire. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. Alors ces milices, elles ont vu le jour il y a 5-6 ans.
Oui, elles sont apparues d'abord de manière très informelle en 2013 et un an plus tard, en fait ce sont pour l'essentiel des chasseurs qui, à cause de l'incompétence des forces de sécurité sur place, se sont rassemblés pour se défendre dans un premier temps contre Boko Haram. Puis ces milices ont été reconnues officiellement en 2014 par le gouverneur de l'État de Borno qui les a officiellement intégrées aux côtés de l'armée et de la police. Alors aujourd'hui, il est très très difficile de dire de manière très précise comment ces milices fonctionnent, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Ce sont de redoutables réseaux de surveillance puisque leurs membres ont une bonne connaissance des communautés rurales qui les entourent. On sait que ces milices font énormément de patrouilles et qu'elles tiennent des postes de sécurité. Et de manière très générale, énormément d'experts estiment que leur présence a permis au moins de chasser Boko Haram hors des grandes villes comme Maïdougouri, donc la capitale de l'État de Borno.
Effectivement, dans le nord-est du Nigeria. Comment expliquer le poids pris ces dernières années par ces nombreuses milices?
Alors, ces milices civiles ont d'abord un statut très flou qui n'a pas été bien défini dès le début, en raison notamment de la défaillance de la présence de l'État dans les États du Nord-Est, dans ces États en crise. Au tout départ, ces milices étaient bénévoles, puis les autorités ont décidé de leur verser un fonds. Et au-delà de ce fonds-là, ces milices tirent l'essentiel de leurs ressources de taxes qu'elles prélèvent dans les checkpoints. Et là encore, il y a encore tout un flou sur la manière dont elles gèrent ces ressources-là. Toujours est-il que c'est une manne importante et que cela attire énormément de jeunes qui veulent s'enrôler au sein de ces groupes. Ensuite, au-delà de la question financière, il faut savoir que ces milices prennent l'initiative d'interpeller de présumés djihadistes. Et cela pose un autre problème, puisqu'aucun garde-fou n'a été mis en place jusque-là par les autorités. Les milices ne rendent pas compte de leurs actes. Et c'est là que les dérives apparaissent. Plusieurs ONG internationales dénoncent régulièrement des cas d'abus commis par ces groupes. On parle régulièrement d'arrestations, de détentions musclées, de présumés djihadistes, de cas de torture, de cas de brutalité également contre les populations civiles, d'où la manifestation de dimanche dernier. Et à côté de ça, on a des autorités qui sont très réticentes à l'idée de nuire à leurs activités, à l'idée de regarder un peu ce qu'elles font, puisque ces milices ont prouvé leur efficacité dans la lutte contre Boko Haram.
Oui, les autorités estiment que ces groupes ont consenti de tels sacrifices qu'il est bien difficile de critiquer leurs interventions. C'est ce que disait il y a quelques jours à votre micro Issa Sanoussi d'Amnesty International. Silver, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, très bien.
Bonne journée et merci de nous écouter à Lomé. À bientôt, Binta Diagne.
À bientôt.
10h20 à Paris. Continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. N'oubliez pas la libre antenne dans 20 minutes avec déjà au standard des réactions sur la contestation des résultats de la présidentielle en Mauritanie. Le projet de révision constitutionnelle qui semble se confirmer en Guinée. Vous êtes nombreux, évidemment, à commenter les affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi des huitièmes cet après-midi à partir de 16h temps universel. En direct, évidemment, sur RFI, il y a des supporters camerounais, ivoiriens, guinéens, sénégalais qui souhaitent prendre la parole. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps, évidemment, de livrer vos pronostics en direct sur l'antenne de RFI. Bonjour Sonia Ghezali.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Kaboul en Afghanistan, nous vous avons contacté ce matin car nous avons des questions justement sur le processus de paix en Afghanistan. Elias, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de RFI.
Vous êtes au Bénin, nous vous écoutons.
Oui monsieur Juan, alors que l'émissaire américain pour l'Afghanistan mène des négociations de paix avec les talibans au Qatar, une violente attaque a eu lieu en plein cœur de Kaboul et a été revendiquée par les talibans. Comment expliquer cette attaque des talibans alors même qu'ils sont en train de négocier avec les États-Unis?
Oui, une attaque en début de semaine à la voiture piégée. Des combats ont également touché tout un quartier du centre de Kaboul, faisant 6 morts et des dizaines de blessés. Sonia Ghezali, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment il peut y avoir une nouvelle attaque à Kaboul, alors qu'au même moment, talibans et américains discutent depuis samedi à Doha, au Qatar, pour essayer de trouver une issue, une sortie de crise, une sortie à cette crise.
Oui, c'est vrai que cette attaque, elle a été particulièrement choquante du fait de son ampleur. Et puis, elle a eu lieu à quelques mètres seulement de plusieurs écoles et de la zone verte où se trouvent les ambassades étrangères et le palais présidentiel. Et cela faisait plusieurs mois que Kaboul n'avait pas connu un attentat de cette envergure. Et vous savez, ici, après deux semaines relativement calmes, les habitants se font tous la réflexion de l'étrangeté d'un calme qui dure parce qu'il est souvent suivi d'une attaque, et le calme relatif ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. Les services de renseignement afghans rapportent chaque jour les menaces qui visent des institutions gouvernementales ou la zone verte ou d'autres cibles.
Ouais. Mais on vous suit régulièrement, évidemment, Sonia Ghezali. Régulièrement, on nous dit que des réseaux terroristes sont tout de même démantelés.
Oui, puisque les services de sécurité sont actifs, malgré les vives critiques qui, à leur égard, et l'activité des insurgés n'a jamais cessé depuis le début de ces pourparlers paix à Doha qui ont commencé en septembre 2018. Et les talibans ont toujours été très clairs là-dessus. La guerre continuera tant qu'il y aura des soldats étrangers en Afghanistan. C'est leur leitmotiv. Il n'y a pas de cessez-le-feu qui a été décidé, bien que le président Ashraf Ghani l'a proposé à plusieurs reprises, puisque les talibans maintiennent leur ligne de conduite.
Vous aviez une autre question, il me semble, Elias.
Oui, les États-Unis espèrent conclure l'accord le 1er septembre. Quel impact cette attaque peut avoir sur les négociations?
Oui, Mike Pompeo, qui était la semaine dernière à Kaboul, est peut-être un peu trop optimiste en déclarant espérer un accord avec les talibans avant le 1er septembre. Est-ce que l'attaque de lundi peut avoir des répercussions, des conséquences sur les négociations?
Les talibans sont clairement en position de force à la table des négociations. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Les insurgés contrôlent ou ont une influence sur près de la moitié du territoire afghan. Et en menant des attaques comme celle qui a eu lieu il y a quelques jours à Kaboul ou à travers le pays, eh bien ils montrent qu'ils peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. Et cela malgré la présence des troupes étrangères en Afghanistan, malgré les activités de l'armée afghane également. Donc mener ce genre d'attaque en pleine négociation, c'est une façon de mettre de la pression supplémentaire sur les États-Unis et de montrer qu'ils ne se préoccupent absolument pas de savoir si ça va choquer, si ça va remettre en question les pourparlers. Ils disent qu'ils sont pour la paix, mais à leurs conditions, et ils sont prêts à se battre encore des années s'il le faut.
Oui, d'autant que les talibans, eux, ont tout le temps, contrairement aux Américains.
Oui, oui, puisqu'ils ne sont absolument pas pressés. Cela fait 18 ans qu'ils parviennent à déstabiliser le pays, qu'ils prennent le contrôle de districts entiers, qu'ils recrutent, qu'ils perfectionnent leur stratégie de combat, et ils ont les financements pour mener leur guérilla. Un ancien taliban qui vit à Kaboul me disait le mois dernier, les talibans étudieront chaque virgule du document final de l'accord, ils ne signeront rien avant d'avoir analysé chaque phrase, car ils ne veulent pas se retrouver dans la même situation que le Vietnam. Donc ils prennent leur temps et ils continueront de frapper partout en Afghanistan jusqu'à obtenir le retrait des troupes étrangères qui est leur condition sine qua non pour signer un accord de paix.
Effectivement. Merci Sonia Ghezali d'avoir été avec nous en direct de Kaboul. Elias, bonne journée à Aplaoué au Bénin où il est 8h25. Bonjour Noël.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous nous appelez d'Abidjan et vous avez des questions sur les relations de plus en plus tendues entre l'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Haftar, et la Turquie.
Oui, en effet, le maréchal Haftar accuse la Turquie de fournir des armes au ministre de Tripoli en violation de l'embargo décrété par l'ONU. Mmh. Alors si cela s'avère exact, quel est l'intérêt de la Turquie à livrer des armes au ministre de Tripoli? Et est-ce que la Turquie s'expose à des sanctions internationales, sachant que la Libye est soumise à un embargo sur les armes?
Ah, bonne question, effectivement. Bonjour Jalel Archaoui.
Bonjour.
Spécialiste de la Libye, chercheur à l'Institut des Relations Internationales de La Haye, aux Pays-Bas. Vous le confirmez, la Turquie fournit bien des armes au gouvernement d'Union Nationale, gouvernement reconnu par la communauté internationale?
Oui, absolument. Et non seulement la Turquie le fait, mais elle s'en targue. Le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli le dit aussi, volontiers, hein, il l'affiche. Je voudrais quand même faire une petite remarque sur le terme « les milices de Tripoli ». Quand on dit « les milices de Tripoli », ça sous-entend qu'il n'y a pas de milices dans l'Est libyen, ce qui est d'un point de vue tout à fait objectif faux. Il n'y a pas les milices à l'ouest et une armée impeccable, extrêmement bien organisée, disciplinée à l'est. Ça, c'est un message idéologique qui est biaisé. Il faut reconnaître que c'est simplement une guerre civile et les deux camps ont des choses à se reprocher, les deux camps sont corrompus et les États étrangers prennent parti d'un côté ou de l'autre.
On va y revenir.
Pourquoi est-ce que la Turquie le fait?
Pourquoi le président Erdogan soutient-il justement, donc je ne vais pas utiliser le terme de milice, mais donc le terme de troupes, les troupes du gouvernement d'Union Nationale?
Parce que, tout d'abord, la Turquie a beaucoup d'affaires économiques engagées en Libye. Elle avait déjà 20 milliards de dollars engagés avant la chute de Kadhafi en 2011. Et depuis, elle ne fait que développer encore plus ses affaires dans l'ouest libyen. Elle a entre 30 milliards et 40 milliards de dollars engagés. Elle exporte beaucoup, elle mène des chantiers, elle fournit des ingénieurs en électricité, etc. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu déjà. Mais aussi sur le plan idéologique, il y a une volonté de la part des États du Golfe, le numéro un en termes d'influence et de dynamisme et de volonté d'interférer, c'est les Émirats Arabes Unis, suivi immédiatement par l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Ces États-là ont un modèle politique extrêmement précis, c'est un autoritarisme très strict, qui est plutôt vertical, avec aucune marge de manœuvre pour la population, pas de société civile, pas de liberté d'expression, surveillance, état policier, et ainsi de suite. Et il y a une autre forme d'autoritarisme. Erdogan est une figure qui est en faveur de son autoritarisme à lui, mais qui est beaucoup plus populiste, qui se nourrit d'un sentiment d'engagement de la part de la population, une espèce de démocratie extrêmement imparfaite, on l'a vu cette année. Et ça, c'est un autre modèle qui est considéré comme intolérable par les États du Golfe.
Donc, vous voyez, donc ce sont deux modèles, deux idéologies finalement qui s'affrontent sur le terrain libyen. Malheureusement, Jalel Archaoui, on n'a pas le temps de répondre à la dernière question de Noël qui voulait savoir savoir si la Turquie risquait des sanctions puisqu'elle viole un embargo sur les armes. Les pays que vous venez de citer, Émirats Arabes Unis, Égypte, Arabie Saoudite, également violent cet embargo puisque ces trois pays livrent des armes aux hommes du maréchal Haftar. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Noël, bonne journée à Abidjan. Tout de suite, le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.